Dans ma région, une réserve importante du pays, qui est même classée patrimoine. Cette réserve est donc dans un état pas très satisfaisant pour moi.
Comment s'appelle cette réserve?
La réserve de Boulan, qui porte le nom d'une autre localité, mais qui en fait est très vaste et donc qui touche ma région. Et donc nous avons donc avec un certain nombre de partenaires. Au niveau local, déjà, il y a l'Office ivoirien des parcs et réserves qui s'en occupe, mais qui n'a pas suffisamment de moyens. Et la réserve est attaquée de toutes parts, généralement par des clandestins et tout ça. Et nous voulons donc préserver cette réserve qui est importante et qui est très accessible pour la faune et pour nos enfants qui n'ont jamais vu d'animaux, qui sont généralement, et même les singes, on les voit rarement aujourd'hui dans nos villes. Donc c'est une réserve très importante et donc nous tenons à vraiment la réhabiliter.
Donc cette réserve est menacée, hein, c'est ça?
Elle est menacée. Elle est menacée sincèrement, et par les incendies, et par les attaques humaines et tout ça.
Alors concrètement, quel plaidoyer est-ce que vous allez faire pour sauver votre réserve?
Alors nous avons pris contact avec le R20, et le R20 ne s'occupant pas tout à fait de ça, nous a orienté vers la fondation Dicarpio, qui est un grand acteur. R20 s'est créé par Schwarzenegger et l'autre par son ami, et qui s'occupe des parcs et réserves. Nous étions déjà à Paris, donc pour une réunion à Lyon surtout, où nous avons rencontré. Et donc ici, nous sommes donc venus avec des éléments concrets pour pouvoir échanger avec eux et puis voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à sauvegarder cette réserve.
Mis à part donc les dangers qui menacent ce parc, est-ce qu'il y a d'autres problèmes liés au dérèglement climatique qui menacent la Côte d'Ivoire?
Bien sûr, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes nombreux, il y a une délégation importante qui est là et qui va aussi comporter des officiels. Au moins 4 ministres seront là. Et donc au niveau du. Si vous savez que la Côte d'Ivoire touche à la mer, à une bonne partie de la mer. Donc à ce niveau, il y a énormément de problèmes.
L'érosion côtière, par exemple.
L'érosion côtière est très très importante dans la région de Sassandra, dans la région de Bassam et dans la région de San Pedro. Toutes ces zones-là sont attaquées. Et ensuite, vous avez au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez même. C'est une zone. La Côte d'Ivoire est un pays forestier, mais qui aujourd'hui voit sa forêt partir. Et donc.
Et c'est dû à quoi la destruction? Ce sont des braconniers ou voilà, qu'est-ce qui est dû à la.
L'exploitation abusive d'abord. Et puis dans la zone qui n'est pas tout à fait au sud où il y a la forêt, mais donc le nord où nous en sommes, nous aussi, le peu que nous avons comme forêt n'est pas préservé par le charbon, l'utilisation pour transformer ça en charbon, par l'agriculture sauvage et tout ça. Et donc, il y a tous ces aspects. Et le ministre de l'Agriculture sera là aussi. Donc, il y a ça à voir sérieusement. Ensuite, on a les services de météo qui sont là par rapport au changement climatique. Vous regardez aujourd'hui les inondations dans certaines régions de la Côte d'Ivoire et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Personne n'y comprend quelque chose.
Et là, c'est dû au dérèglement climatique.
Voilà, au dérèglement climatique. Mais il faut aussi profiter, avoir toutes les données pour sensibiliser nos populations et voir qu'est-ce qu'aussi on peut faire sur le dérèglement climatique. Je crois que la Côte d'Ivoire a signé à Paris. Et donc, il y a des efforts à faire au niveau de chaque État, dont la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une réduction forte, hein, des émissions de gaz pour sauvegarder au moins ce climat.
La Côte d'Ivoire est également confrontée à beaucoup de problèmes, notamment dans les plantations de cacao et d'anacarde. Là aussi, ce sont des réalités préoccupantes, hein.
Oui, mais les réalités aussi, à niveau des plantations de café cacao, c'est l'extension. Quand on fait de l'extension de ces plantations, vous aussi la forêt, l'environnement est attaqué. Je pense que je vous ai dit que le ministre de l'Agriculture sera là. C'est de tous ces problèmes qu'il faut qu'on regarde. Il ne faut pas abusivement. Hein, et puis, il faut aussi une partie pour que les populations, les villages et les villes puissent faire, comment on appelle, avoir leur forêt. Hein. On doit exiger une certaine superficie qui doit être plantée, et si elle n'est pas encore, si elle n'est pas encore plantée, et si elle est plantée, de l'entretenir pour qu'il y ait au moins une proportion de superficie gérée par un village, par un campement, par une ville, pour qu'on puisse couvrir au moins une partie du territoire en forêt pour améliorer les conditions climatiques.
Alors les plantations de cacao et d'anacarde sont menacées par la nature et par la nature et par les hommes?
Oui, par la nature, parce qu'avec le changement climatique, donc tout change. Par exemple, au moment de la floraison de ces plantations, il y a les pluies et puis des pluies avec des vents violents qui font tomber toute la floraison, donc réduction de la production. Ensuite, il y a des sécheresses énormes. Quand il ne pleut pas, on passe à des températures énormes, donc qui agissent aussi sur les plantations. Voilà l'un dans l'autre à quoi nous subissons.
Il y a aussi la forte pluviométrie qui c'est peut-être à l'origine de cette situation.
Oui, la forte pluviométrie, même au-delà même des plantations, agit même sur les plantations. Dans la zone de l'Ouest cette année, en Côte d'Ivoire, il y a eu des inondations énormes. Il y a eu des villages qui ont été inondés. Il y a eu, vous savez, quand nous...
Et auparavant, il n'y avait pas ce genre d'inondation?
Non, pas du tout. Surtout à l'Ouest, il n'y avait pas ce genre. Et quand nous construisons, nous ne prévoyons pas, nos parents ne prévoient pas donc qu'il y ait un changement climatique aussi brusque. Et donc les maisons sont en fait des matériaux précaires. Donc aujourd'hui, ces maisons croulent et ça fait des dégâts humains et des dégâts matériels.
Les accords de Paris ont été signés il y a déjà 2 ans. Qu'est-ce que votre pays a fait concrètement pour atteindre les objectifs ou bien certains objectifs contenus dans ces accords?
Bon, à mon humble niveau, parce que la question que vous posez, je pense qu'au niveau gouvernemental, il y a des mesures qui ont été prises. Mais la première des choses, c'est que le gouvernement ayant signé a intégré la lutte contre la sécheresse, contre le climat, et puis donc pour améliorer. Voilà. Ensuite, il y a cette sensibilisation donc au niveau national qui a été qui est régulièrement expliquée pour que la mentalité puisse changer. Je vous assure que longtemps on a dit changement climatique, il n'était pas visible à l'œil nu. Il fallait peut-être un microscope pour voir. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire même aux paysans qu'il y a un changement climatique. C'est vu à l'œil nu. Et comme on dit aujourd'hui chez nous, c'est pas mot de vente, c'est mot Dieu. C'est-à-dire quand vous venez, tout le monde voit. Et donc le changement climatique aujourd'hui, tout le monde voit. Tout le monde voit que ça change. Et il pleut quand il ne faut pas pleuvoir. Et bien, donc il faut que même nos paysans changent les périodes de plantation de certaines cultures et tout ça. Donc je pense que la sensibilisation a été très bien, bien comprise. Et tout le monde aujourd'hui suit au niveau des informations que l'État donne. Tout le monde est convaincu que il faut effectivement suivre ces mesures-là.
Comme dans beaucoup d'autres pays, les Ivoiriens achètent des voitures importées d'Europe. Et la conséquence, c'est que le taux d'émission des COD sont assez énormes. C'est une situation assez préoccupante aussi.
Oui, elle est préoccupante. Et chez nous, il y a une mesure qui a été prise pour exclure les voitures d'un certain âge.
Les au revoir Europe, là.
Au revoir, comment on les appelle. Pour exclure, voilà, quand la voiture a atteint, je crois, 7 ans, il est interdit d'importer une voiture qui a 7 ans et au-delà.
Et est-ce que la mesure est respectée par les Ivoiriens?
Bon, je pense qu'elle est respectée. Je ne suis pas un importateur, je ne suis pas à la décision, mais je pense qu'elle est exportée. Elle est expliquée et qu'elle est suivie.
D'autres problèmes subsistent en Côte d'Ivoire, selon nos informations, la pollution des lagunes ou des cours d'eau, c'est quand même aussi une dégradation de l'environnement.
Oui, l'État est en train d'investir plus de 500 milliards de francs CFA pour dépolluer la lagune, avec des partenaires marocains pour le financement, pour dépolluer complètement la lagune, arriver à ouvrir l'embouchure pour que aussi cette embouchure puisse avoir une circulation d'eau pour atténuer certaines choses. Donc, c'est vrai, la lagune est très importante pour nous, surtout pour Abidjan, et si elle n'est pas dépolluée.
Alors, dernière question, quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'Ivoirien, au terme de ces genres de rencontres? Parce que beaucoup pensent que l'ONU organise différentes rencontres pour juste discuter, et après les résultats, on n'en voit pas. La preuve est que beaucoup de points des accords de Paris n'ont pas été respectés. Qu'est-ce que vous vous attendez concrètement au sortir de cette rencontre de Bonn?
Bon, au niveau du gouvernement, je pense qu'il y a des choses. Parce que quand vous regardez au niveau énergétique, il y a aussi le ministre de l'énergie, j'ai vu qu'il y a un changement au niveau de la Côte d'Ivoire parce que les énergies renouvelables ont été prises en compte au niveau d'une loi en Côte d'Ivoire et on a vu commencer à avoir l'application, par exemple, de la construction des centrales solaires qui sont en cours. Moi-même, dans ma région, il y a une centrale de 25 MW qui va être construite. L'appel d'offres a été lancé déjà. Ensuite, nous qui sommes venus au niveau des régions de Côte d'Ivoire, nous sommes les présidents des régions et on est venus en bonne délégation. C'est des choses qui ne se décident pas du jour au lendemain, mais c'est des contacts qui sont un peu de long à moyen terme et qui aboutissent. Parce qu'aujourd'hui, les partenaires que nous rencontrons sont en avance sur nous, sur ces problèmes, et constatent aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui touchés par ces problèmes. Nous sommes conscients et nous venons vers eux pour qu'ils nous apportent et leur technicité et peut-être des fonds pour nous accompagner dans, comment on appelle, l'amélioration de ces conditions et réduire le CO2 de tout le monde pour que tout le monde entier en profite. C'est vrai que chez nous, en Afrique, ce n'est pas encore chose, mais c'est maintenant qu'il faut prendre les mesures. Et c'est maintenant qu'il faut aller au changement. Et au niveau des déchets, par exemple, il y a un net progrès chez nous et avec des partenaires qui sont avec le ministre de l'Environnement qui était aux deux dernières COP. Et donc, tout ça, ça a permis d'améliorer et de continuer de régler un certain nombre de problèmes qui sont visibles aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Vous parliez à l'instant de l'énergie, des énergies renouvelables comme le solaire. Beaucoup pensent en Afrique que le nucléaire pourrait éventuellement être la solution. Le nucléaire. Alors, qu'en est-il en Côte d'Ivoire?
Non, nous on n'y pense même pas. Parce que nous avons suffisamment de ressources naturelles pour couvrir nos problèmes énergétiques et avec nos voisins, partenaires ensemble. Nous venons d'inaugurer un barrage hydraulique qui fait à peu près 275 MW. Nous avons un potentiel de 3 ou 4 autres barrages qui vont être construits au niveau de la Côte d'Ivoire. Ensuite, les problèmes, les énergies solaires, nous avons un bon ensoleillement, donc nous avons la possibilité de faire de l'énergie solaire pour couvrir. Donc, le nucléaire, nous n'y pensons pas parce qu'il est la maîtrise des déchets nucléaires. Est tellement compliqué et coûte tellement cher que pour nos États, je pense que c'est trop tôt.
Donc vous pensez que l'Afrique n'a pas besoin du nucléaire pour l'heure?
Je pense qu'on n'en a pas besoin parce qu'on a suffisamment. Quand vous prenez nos pays africains, si les fleuves, les rivières sont exploitées, nous devons, nous, avec une interconnexion, couvrir tous nos problèmes énergétiques suffisamment. Et donc, et puis ensuite, nous avons une bonne partie de nos pays en Afrique qui sont au niveau du désert, qui ont un ensoleillement suffisant pour avoir suffisamment de centrales solaires. Tout ça interconnecté peut couvrir nos problèmes énergétiques que d'aller vers le nucléaire qui coûte cher et qui est difficilement maîtrisable au niveau ordure et au niveau conduite même.
Mais pourtant, l'Afrique a quand même les ressources non, minières pour s'adonner au nucléaire.
Oui, mais vous voyez qu'en Europe, eux-mêmes, ils sont en train de vouloir fermer ces centrales nucléaires qui produisent bien, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus maîtrisables. Vous avez vu ce qui est arrivé au Japon, avec toute la technicité qu'ils ont. Dès qu'il y a un problème nucléaire, avec les problèmes, il est très compliqué des radiations. La radiation, ce n'est pas seulement ce qu'on a tué, mais ça va jusqu'aux plantes et pour des années et des années. Donc, vraiment, je pense que, à mon humble avis, on est encore loin de vouloir penser au nucléaire.
Et est-ce que pendant les discussions, vous avez évoqué ce sujet, le nucléaire?
Non. On n'y pense même pas. On a d'autres problèmes à résoudre qui sont beaucoup plus proches de nous, beaucoup quotidiens, que de penser au nucléaire.